Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 2 février et aujourd'hui nous allons parler de ces mesures qui sont mises en place justement aux ménages pour éviter le surendettement, des mesures qui sont en hausse, en tout cas dans le département en Mayenne. Et puis on va parler aussi de tous ces éco-gestes, tout ce que vos artisans mayennais et artisans d'ailleurs aussi, mais en tout cas spécifiquement un zoom sur la Mayenne, sur tout ce que ces éco-gestes en tout cas prouvent, avec aussi tout ce qui est mis en place, donc un dispositif, cette marque d'ailleurs même Éco et Défi, porté par la Chambre des métiers, accompagné par le CPIE Mayenne-Bamen. Ce sera le sujet de notre interview. Et puis on va aussi retrouver Soizic pour une nouvelle chronique, un autre écho de l'écho. Alors si vous nous avez suivi il y a quelques semaines de cela, elle parlait de cette potentielle, en tout cas, légalisation du cannabis. Bah là c'est un peu l'épisode 2, vous l'entendrez donc ça en fin d'émission. Mais d'abord, on va faire un point sur l'actualité. Avec cette première étape aujourd'hui dans la levée des restrictions, le masque n'est plus obligatoire en extérieur. Les jauges sont également levées dans les établissements qui accueillent du public, les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle ou les stades. Le télétravail n'est plus imposé mais reste conseillé par le gouvernement. En revanche, il va encore falloir attendre 2 semaines pour aller en discothèque, en concert ou encore consommer debout au bar. Et pendant ce temps, en Mayenne, le taux d'incidence continue d'augmenter. Il s'établit désormais à 3778 cas pour 100 000 habitants. Le nombre de personnes hospitalisées continue lui aussi de grimper. Elles étaient 103 hier, dont 3 en réanimation. Sur la rocade de Laval hier, un accident a fait 2 blessés. Un véhicule utilitaire et 2 voitures se sont percutées vers 17h sur la rocade est de Laval. 5 personnes ont été impliquées. Parmi elles, 2 ont été légèrement blessées et transportées au centre hospitalier de Laval. La circulation a été réduite à 1 voie le temps de l'intervention des secours. Une 5e classe va finalement ouvrir à Montigny-le-Briand. C'était une demande des parents d'élèves et des syndicats qui s'étaient d'ailleurs mobilisés en ce sens la semaine dernière devant l'école. Mais la FSU et le SNUDI FO 53 regrettent encore les 17 fermetures de classes annoncées à la rentrée prochaine. La carte scolaire sera révélée par la direction académique de Mayenne demain jeudi. Un CDI d'abord, la formation ensuite. C'est le nouveau dispositif lancé par Actual Group. 500 CDI seront proposés dans la région et 100 en Mayenne. Début du programme d'Actual dans notre département d'ailleurs, autour de 2 formations, celle de conducteur de ligne et d'agent de maintenance. C'est ouvert à tous les demandeurs d'emploi qui seront d'abord embauchés puis formés à ces métiers. Renseignements au téléphone en appelant le 02 49 88 14 44. Une installation agricole pour 3 départs en retraite. La transmission agricole est un enjeu pour le département et c'est pour cette raison que le pays de Cran lance ses cafés transmission à destination des agriculteurs. 6 vont être organisés d'ici cet été et le premier a lieu vendredi à 14h à la salle des fêtes de Saint-Poix. Pour éviter de se retrouver surendetté, des mesures d'accompagnement sont mises en place. Des MAPS, des mesures d'accompagnement social personnalisées, 115 sont mises en œuvre par an, un chiffre qui a tendance à augmenter. Une convention a été renouvelée pour 3 ans entre le département de la Mayenne et 2 associations qui assurent cet accompagnement. L'association tutélaire des majeurs protégés, l'ATMP 53, et l'UDAF 53, l'Union départementale des associations familiales de la Mayenne, dont Odile Gombeau est la présidente.
C'est une mesure qui existe déjà depuis presque 2007, je crois, qui permet aux personnes qui ont des difficultés, aux familles, qui ont des difficultés budgétaires, à condition qu'elles aient des prestations sociales. Il faut qu'elles touchent quelque chose, soit une allocation de la CAF, allocation logement. Et là, à ce moment-là, elles peuvent bénéficier de cette mesure, c'est-à-dire d'avoir un accompagnement spécialisé, personnalisé, et c'est le conseil départemental qui finance ces mesures et qui va s'adresser ensuite à nos 2 associations, l'ATMP, l'association tutélaire des majeurs protégés, et nous-mêmes l'UDAF, pour que nous puissions accompagner une famille à raison de 2 visites par mois et d'un suivi avec des professionnels, bien entendu, chez nous, qui les accompagnent et les aident à mieux gérer leur budget de façon à éviter ce qu'on retrouve après dans les commissions comme la commission de surendettement ou bien les expulsions pour les logements. On travaille beaucoup sur justement le logement, les impayés de loyer, etc. Voilà. ce n'est pas une obligation. Là, il y a toute la liberté de respecter et il faut que la famille accepte de travailler, qu'on l'accompagne avec ce travailleur social. Et évidemment, il faut que le feeling passe, comme je dirais. Il faut 2 ans pour un véritable accompagnement, si vous voulez, quelquefois un peu moins, mais, et souvent il faut un peu plus. Mais ça ne peut pas aller au-delà de 4 ans. C'est la loi, malheureusement. C'est bien, déjà, on a le temps, avec la famille, de vraiment étudier, l'aider dans tout son budget au quotidien. Avec même parfois également les enfants peuvent être présents, etc. De toute façon, un régime de curatelle, de tutelle, etc., ça ne peut se faire que si elle a vraiment, une des deux personnes dans le couple, a ses facultés mentales altérées. Alors Dieu merci, c'est pas tout le temps, heureusement, que les personnes qui sont surendettées ou qui ont du mal à payer leur loyer, eh ben, heureusement qu'elles ne sont pas le cerveau un peu fragile. Alors là, ce serait dramatique, quoi. Bon, il y a certains cas où il le faut. Dans ce cas-là, on bascule vers ce qu'on appelle une MAJ, une mesure d'accompagnement judiciaire, voilà. Mais c'est quand même très très rare, c'est très faible.
Et malgré tout, un nombre de MASP qui, lui, augmente, à quoi est-ce que ça peut être dû ?
Il augmente doucement, je dirais, mais c'est dû parce que peut-être une meilleure connaissance de la mesure. Et puis, on a la crise économique quand même, et le contexte actuel, avec la Covid quand même depuis bientôt 2 ans, qui fait que ça ne s'arrange pas.
Le département s'engage via cette convention à verser 85 500 euros à chacune des associations qui insistent, elles, sur l'importance de la prévention avec l'apprentissage de la gestion d'un budget dès le collège ou le lycée. On va parler de cette marque Éco-Défi qui séduit de plus en plus d'artisans dans le département juste après avoir écouté Angèle avec Jalousie.
Jalousie, jalousie. Nuance avec parano. De pas grand chose, mais pourquoi s'entremêler entre lui et moi? C'est plutôt déplacé et frustrant, car jalousie, ton nom est bien trop joli.
avez reconnu, bien sûr, Angèle avec Jalousie dans la JT du local, toujours à l'écoute de l'autre radio. Avec cette question maintenant, comment repérer les artisans près de chez vous qui font attention à l'environnement ? Eh bien, on peut entre autres se fier à la marque Ecodéfi, portée par la CMA 53, la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Mayenne. Cette marque existe depuis 2017, mais connaît un nouveau souffle avec ce nouveau partenariat établi entre la CMA 53 et le CPIE Mayenne-Bamène, le Centre permanent d'initiative pour l'environnement. L'objectif, c'est de faire connaître les éco-gestes déjà pratiqués par les artisans, mais aussi d'aller plus loin dans la démarche.
Je suis Aude, chargée de mission santé-environnement au CPIE, donc le Centre permanent d'initiative pour l'environnement à Mayenne.
Thierry Montgazon, conseiller développement durable à la Chambre de métiers et de l'artisanat.
On est ici, entre autres, pour cette convention qui a été signée entre les deux acteurs. Est-ce qu'on peut jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur et expliquer pourquoi, qu'est-ce qui a fait que vous êtes regroupés sur cette convention ?
Alors nous avons des actions communes, en tout cas des objectifs communs, avec deux publics complètement différents qui sont malgré tout complémentaires. Nous, Chambre de métiers, on est plutôt spécialisés des artisans. Et côté Aude, je pense qu'ils sont plus proches des particuliers, donc des consommateurs, qui sont directement en lien avec nos propres artisans.
L'idée là, c'est notamment de travailler autour du dispositif Ecodéfi, qui existe depuis plusieurs années auprès des artisans. De quelle manière ils peuvent s'engager ? En quoi ça consiste ?
Alors, il est effectivement déployé depuis 2017, où on a initié une démarche sur Ernée, notamment. L'idée, c'est de valoriser tous les artisans commerçants qui mettent en œuvre des actions concrètes en faveur de l'environnement. On leur propose de réaliser un état des lieux, des bonnes pratiques déjà mises en place, et de les engager dans une démarche d'amélioration continue par la mise en place de nouvelles actions chaque année.
Ils ont plusieurs critères sur lesquels ils peuvent agir. Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns pour avoir déjà une idée un peu de ce que ça peut être ?
Alors on évalue effectivement sept thématiques différentes, dont les déchets, les emballages, le volet mobilité. On parle aussi d'énergie, de gestion de l'eau, du volet sociétal et durable, des produits. Le choix des produits est important. On peut minimiser ces déchets. On a différentes actions qui sont proposées en fonction de l'artisan, de sa profession et de ce qu'il a à améliorer.
Comment ça se passe justement pour avoir la marque Ecodéfi ? Il y a au moins déjà un diagnostic et puis ensuite une période d'un an un peu de test, c'est ça ?
Oui, alors à partir du diagnostic, on s'entend sur trois actions que l'artisan peut mettre en place dans l'année, dans au moins deux thématiques différentes. Il met en place ses actions. Quand elles sont mises en place, il doit justifier la mise en place. On nous donne les éléments afin que l'on puisse constituer un dossier pour le faire passer en commission régionale. On a 3 à 4 comités par an où on évalue l'entreprise qui a été proposée et où on valide ou non en fonction de la pertinence de ces actions.
Tous les ans, on doit aussi donc mettre une action supplémentaire, c'est ce que vous disiez, en place ?
Exactement, la première année, 3 actions, ensuite une année complémentaire au minimum chaque année pour le faire progresser et mettre en place le plus d'actions possible.
Le CPIE va aussi aider aussi ces artisans à peut-être percevoir ce qu'ils font déjà et surtout ce qu'ils pourraient mettre en place aussi comme éco-gestes.
C'est ça, nous on a l'habitude effectivement d'aller questionner un peu les habitudes du quotidien, donc on peut aller voir un artisan et puis faire un état des lieux aussi avec lui, mais surtout essayer de l'engager pour plus d'engagement ou en tout cas des engagements auxquels il ne pense pas forcément. Et puis ce qui nous tient à cœur, c'est surtout que le commerçant puisse avoir des engagements en corrélation avec ce que le consommateur attend. Donc nous, on va aussi aller questionner le consommateur et puis aller vraiment chercher, vous, quand vous faites un achat, qu'est-ce que vous attendez de la part de votre artisan ? Est-ce que vous êtes plutôt sur, justement, la partie mobilité ? Vous êtes regardant sur comment se déplace votre commerçant ? Ou est-ce que c'est plutôt ce que va vendre comme produit votre commerçant ? Enfin voilà, on va essayer d'aller mieux le connaître, cerner ses attentes et puis en faire part après aux artisans.
L'idée, c'est que là, il y a déjà une enquête qui a été mise en place au mois de novembre.
On a profité de la semaine européenne de réduction des déchets, puisque la Chambre des métiers et d'artisanat valorisait les commerçants déjà labellisés. Donc, ils sont allés à la rencontre de ces commerçants à Ernée et à Mayenne. Le CPIE les a accompagnés, du coup, pour voir comment ça se passait. Et on en a profité pour faire circuler une première enquête auprès des consommateurs qu'on va, en 2022, essayer de faire grandir, donc avoir de plus en plus de réponses pour que ce soit vraiment révélateur de comment consomme un Mayennais.
L'idée, c'est de aussi forcément faire grandir ce nombre d'artisans qui s'engagent dans ce dispositif et donc pour avoir la marque Éco-Défi. Pour l'instant, combien d'artisans mayennais sont concernés ?
Alors, on a réalisé une centaine de diagnostics. Alors effectivement, l'idée à terme, c'est quand même d'inciter les consommateurs à aller chez des artisans qui ont plutôt une démarche vertueuse. Donc c'est plutôt intéressant à mon sens que chaque artisan puisse s'engager, s'investir dans ce qui nous semble important et aux yeux de la chambre de métier, mais également auprès des consommateurs, puisqu'ils ont des attentes de plus en plus précises. Et les conditions sanitaires depuis quelques temps ont certainement fait évoluer les pratiques qui existaient par le passé.
Bah, j'aimerais dire que j'en suis persuadée, mais j'attends d'avoir plus de réponses pour vraiment voir si c'est une réalité de terrain. On a tendance à penser quand même qu'effectivement, le Covid a changé nos habitudes de consommation, qu'on va beaucoup plus voir les artisans commerçants locaux. Maintenant, est-ce que c'est une réalité qui va perdurer ? J'attends les résultats de l'enquête pour le voir. J'aimerais y croire, mais je sais pas.
En tout cas, il y a eu aussi une visite auprès de ces artisans Éco-Défi, donc avec qui ont cette marque qui a été réalisée il y a quelques temps. Ça a été aussi l'occasion de vous rendre compte que c'est parfois difficile de mettre des mots sur les engagements au quotidien.
Oui, alors on a la chance d'avoir des artisans mayennais plutôt engagés et discrets, donc ils ont du mal à expliquer ce qu'ils font. Ils ont l'impression que tout est normal alors qu'ils mettent déjà des actions très pertinentes au quotidien. C'est peut-être tout simplement, encore une fois, le boulanger qui donne sa baguette à tout consommateur. Le consommateur a-t-il besoin nécessairement d'avoir un petit sac papier, avoir une petite feuille autour de la baguette ? Lui aussi, de son côté, le consommateur peut venir avec son sac réutilisable pour éviter justement d'avoir un papier à jeter dont on n'a pas nécessairement besoin. Donc voilà, des réflexions et des diverses actions qui peuvent être proposées. Elles sont multiples.
Moi, j'ai trouvé ça étonnant. En ayant rencontré les artisans commerçants, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des actions très, très chouettes qui méritaient d'être valorisées. Et finalement, oui, l'artisan commerçant ne sait pas forcément le verbaliser. J'ai un exemple d'un chocolatier qui s'est dit que se fournir en beurre local, c'était quand même mieux et donc qui est en train de se questionner là-dessus. Par exemple, je crois qu'il est même déjà sur le point de passer à l'action. Ou alors une opticienne qui a changé de machine pour récupérer l'eau qui sert à travailler les verres lorsqu'il faut les former en fonction de la monture du verre. Je pense que personne ne le sait, mais pour faire cette action-là, il faut 20 litres d'eau. Donc c'est 20 litres d'eau perdue à chaque verre taillé. Cette opticienne-là a décidé de garder l'eau et la réutiliser pendant tout un mois. Donc c'est quand même de belles actions qui aujourd'hui ne sont pas du tout connu des consommateurs et pourtant ça mérite de l'être.
L'idée, ça va être là aussi de pouvoir communiquer auprès des clients, auprès des consommateurs.
Je pense qu'on est encore en cours d'étude pour voir ce qui est le plus pertinent de mettre en place. Mais oui, l'idée, c'est de faire savoir que des artisans sont engagés, qu'ils font des actions vraiment louables et qu'on ne demande pas que aux consommateurs de faire des efforts, mais que l'artisan s'engage aussi. Je trouve que c'est porteur de sens aujourd'hui.
Il y aura aussi toute une dynamique auprès des artisans, puisque j'imagine que le premier réflexe, c'est de dire peut-être oui, mais j'ai plein d'autres choses à gérer. Donc comment on fait pour justement les inciter à rentrer dans cette démarche et en tout cas d'essayer d'avoir cette marque Éco-Défi ?
Oui, alors le temps, la problématique majeure de nos artisans, ils n'ont pas trop de temps à consacrer à ce genre d'opération. En revanche, la prise de recul qu'ils prennent lors du diagnostic leur permet d'entrevoir des solutions quand même et des actions nouvelles à mettre en place. Il faut aussi qu'ils sollicitent toutes leurs équipes en interne, puisqu'ils chacun est porteur d'un message et est en capacité aussi d'agir pour son entreprise. Donc en termes de communication en interne, il y a pas mal de choses aussi qui sont suggérées. Voilà, des actions, il en existe une multitude encore une fois et il y a fort à faire.
L'idée et l'objectif en tout cas, c'est aussi de pouvoir les partager dans des clubs, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
La mutualisation, c'est ce qui se fait de mieux. De même que, comme on rencontre bon nombre d'artisans, les déchets des uns peuvent devenir des matières premières pour d'autres. Également, on a pas mal de choses qui peuvent se faire en local. On a déjà déployé ce genre de dispositif. On a réalisé des fiches pour mettre en lumière les bonnes pratiques des uns et des autres, afin que ça puisse être également dupliqué. Donc voilà, il y a du travail pour tout le monde et chacun peut avoir une bonne idée à exposer et sur lesquels on peut relayer l'information côté CPIE également.
Notamment sur les villes de Dernay et de Mayenne, là, ça a l'air d'être déjà pas mal développé, en tout cas ce réseau-là.
C'est pas moi qui le maîtrise le mieux, mais effectivement, pour avoir accompagné la Chambre lors de la remise des trophées pour Ecodéfi en novembre dernier, effectivement, il y avait déjà une bonne quinzaine de commerçants engagés, il me semble, sur les deux communes. Et on se rend compte que dans le Nord Mayenne, on a déjà des artisans bien dynamiques, notamment à Ernée ou à Mayenne. Et ça mérite d'être encore plus vivant, donc il y a encore du potentiel, en tout cas, à développer.
Là, quel est l'objectif pour l'année qui va venir avec cette convention qui a été signée là, dans le calendrier? Comment est-ce que vous voyez les choses?
Eh ben, je pense qu'on les a déjà bien évoqués, hein, le fait d'aller à la rencontre du consommateur pour bien cerner ses attentes, en faire part ensuite aux commerçants, et puis sur un autre volet, valoriser les commerçants déjà engagés pour faire savoir qu'ils font déjà des actions chouettes. Et puis un dernier volet, c'est peut-être d'augmenter le nombre de commerçants engagés si on peut se le permettre, mais on verra, on prendra les choses petit à petit, je pense, dans l'année.
Déjà, on a initié une première démarche avec la première phase de questionnaire. On va pouvoir l'étoffer et puis analyser précisément ces résultats pour en faire un retour auprès des artisans également qui pourront peut-être aussi changer quelques pratiques en fonction des attentes réelles de nos consommateurs.
Et donc cet accompagnement par la Chambre des métiers est proposé gratuitement. Plus d'infos et de renseignements en contactant Thierry Montgazon par mail à tmontgazon@artisanatpaysdelaloire.fr ou par téléphone au 02 43 49 88 69. On va passer à la chronique de Soizic juste après avoir écouté The Lemon Twigs Small Victories.
Oh,
Jusqu'à la dernière note, c'était The Lemon Twigs, Small Victories dans l'agité du local. Vous êtes toujours à l'écoute de l'autre radio. Et c'est le retour de Soizic pour sa chronique Un autre écho de l'écho. Bonjour Soizic.
Bonjour Marie.
Et tout de suite, on va découvrir la suite des aventures du CBD. Oui, c'était le sujet de votre dernière chronique.
Et oui, parce qu'il y a quelques semaines, rappelez-vous, je vous avais parlé de la situation ubuesque dans laquelle se trouvait la France au sujet de la législation sur le CBD. Eh bien, figurez-vous qu'il y a du nouveau. Le Conseil constitutionnel a rendu une décision provisoire, certes, sur ce sujet le 24 janvier dernier. Alors bien sûr, je tenais à vous tenir informé de la suite de l'aventure. Mais cette histoire me semblait aussi intéressante à un autre titre. Elle illustre en effet parfaitement le processus de normalisation sociale ou comment un acte déviant disparaît et devient normal. Petit rappel, le chanvre ou le cannabis, c'est la même chose, est certes utilisé pour la confection de cordes, mais produit également d'une part de la THC, considérée comme psychotrope et donc interdite, c'est avec elle qu'on fait les joints, si vous voulez, et d'autre part le CBD, déclassé, lui, en tant que drogue par l'OMS, car ne contenant pas de psychotropes. Son usage lié au bien-être était autorisé de production, de transformation, comme de consommation dans toute l'Union européenne, sauf en France, et ce, jusqu'en décembre dernier. Impossible, dans notre pays, de transformer la fleur de chanvre en cannabidol. Alors pourquoi ? Eh bien, le gouvernement arguait que la similitude entre les plantes contenant du CBD et de la THC compliquait trop les contrôles antistupéfiants des forces de l'ordre. Alors pour plus de commodité, eh ben, il valait mieux tout interdire. Ce faisant, il répondait également favorablement à une large frange de l'opinion publique hostile à la dépénalisation de la consommation de cannabis. Le gouvernement français traînait donc des deux pieds pour avancer sur cette histoire de CBD, dont le nombre de boutiques explose pourtant littéralement, est-il besoin de le rappeler. Donc, tancé par l'Union européenne, ce 24 janvier, le Conseil d'État a tranché et a légalisé la vente des feuilles et fleurs de CBD aux consommateurs français. Pour la vénérable institution, la raison de la difficulté de la répression n'est pas une raison suffisante pour interdire la production de fleurs, de chanvre, ni sa transformation.
Et alors, Soizic, ces ajustements sont donc une mise au pas de la France.
Tout à fait, mais pas que. En effet, dans cette nouvelle juridiction, on peut y voir deux tendances inverses. Soit, selon une approche plutôt conservatrice, on va dire, un moyen de continuer de protéger la population contre les méfaits du cannabis en différenciant les juridictions sur la THC et celles sur le CBD. Ou bien, et ça c'est nouveau, on peut aussi y voir, de manière un peu plus gaillarde, une manière de préparer à la dépénalisation de la fumette. En effet, avec ce nouvel avis du Conseil d'État, force est de constater que la diabolisation du produit en a quand même pris un sacré coup. Et qu'il va devenir, de surcroît, de plus en plus compliqué d'aller à l'encontre d'un mouvement assez global sur la planète. Sans compter, je le rappelle, le pactole dont se prive aujourd'hui l'État en laissant ce juteux commerce aux mains des dealers. Et puis enfin, au niveau économique, ça laisse vierge des niches industrielles dont j'ai parlé l'autre fois. Mais en dehors de la polémique pour savoir s'il faut ou non dépénaliser l'usage du cannabis, cette saga juridictionnelle est parfaitement intéressante au niveau sociologique. On a en effet là une illustration parfaite du double concept de normes et de déviance. Durkheim, le père de la sociologie française, disait déjà à la fin du 19e siècle que la déviance, inhérente à toute société, et donc normale d'un point de vue sociologique, n'existe pas dans l'absolu. La déviance n'existe que par rapport à une norme. Et ces normes, elles peuvent être sociales, c'est-à-dire acceptées par la société, ou juridiques, c'est-à-dire décrétées par l'État et sanctionnées si on y contrevient. Alors, l'évolution des normes sociales ou juridiques, selon qu'elles évoluent ces normes, évidemment, la déviance apparaît ou disparaît. Autrement dit, Marie, ce qui est considéré comme un acte déviant et répréhensible par la loi aujourd'hui, ne le sera peut-être plus dans quelques années. Et l'exemple du CBD et du cannabis montre bien ce passage de la déviance à la norme. Décidément. Et comme souvent, la norme juridique est à la remorque de la norme sociale. Par exemple, la France est le pays où le taux de jeunes fumeurs de cannabis est le plus important d'Europe. et c'est en même temps le pays où la législation est la plus contraignante. Et il s'est passé la même chose hein, avec d'autres thèmes, par exemple l'avortement, le divorce ou l'homosexualité. Les normes sociales évoluent, le législateur ne fait lui qu'entériner. Alors la normalisation sociale du cannabis peut prendre encore 1 an, 5 ans, voire 10 ans. Mais quoi qu'on en pense, on voit bien que le législateur commence déjà, bon gré mal gré, à mettre des jalons pour préparer une opinion publique effarouchée à accepter une norme sociale pourtant largement installée.
Merci beaucoup, Soizic, pour cette nouvelle chronique. Alors, y aura-t-il un épisode CBD 3 ?
Eh bien, pourquoi pas ? S'il y en a un, en tout cas, je vous en ferai part avec grand plaisir.
À suivre, en tout cas. Merci beaucoup.
Bonne journée.
À bientôt. Et bonne journée également. Évidemment, une nouvelle chronique dans 2 semaines. C'est la fin de notre émission L'Agité du local. Mais restez avec nous, puisqu'à 19h, il y aura Novorama. Ce sera suivi à 21h de Chaosphère avec un best-of de cette année 2021. Nous, on se retrouve demain à 12h15. Je vous souhaite une très belle journée.